Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, aujourd'hui nous vous proposons une émission spéciale puisque nous nous trouvons au Théâtre de la Main d'Or à Paris pour l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Les cadres, les militants, les adhérents, certains auteurs contre-culture ainsi qu'Alain Soral lui-même sont aujourd'hui réunis pour faire le point sur l'association, sur les enjeux actuels de notre action et sur l'efficacité de l'organisation. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
Salut Vincent, bonjour à tous.
Alors Xavier, ce que je te propose aujourd'hui, c'est que nous fassions le tour du Théâtre de la Main d'Or et que nous interrogions différents militants, différents cadres de l'association. Tu es d'accord ?
On est parti ?
C'est parti. Marie, bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Alors tu es une illustratrice, tu es la principale illustratrice des livres contre culture, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors on est ici à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Comment tu trouves l'ambiance ?
Formidable, comme tous les ans.
Alors, la plupart des gens, tu les connais, ce sont des camarades de longue date pour certains.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux ?
Oui, beaucoup de nouveaux.
Ouais. Donc c'est une association qui est vivante ?
Oui, effectivement, on peut dire ça, oui. Très vivante.
Toi, ça fait combien d'années que tu es ici ?
Ça va faire 8 ans ? Non, pas 8 ans, attends. Depuis 2008, donc ça fait 7 ans.
D'accord. Et donc tu t'occupes, tu es graphiste de profession ?
Oui, si on veut. Enfin, j'ai appris mon métier avec ER en fait. J'ai appris toute seule chez moi et j'ai proposé mon travail à ER pour voir si ça valait quelque chose. On m'a dit oui et puis voilà.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu imagines les couvertures que tu dessines, le processus par lequel tu arrives à créer ?
Alors j'ai rarement le temps de lire les livres avant de réaliser la couverture, donc je travaille avec Anne qui réalise les quatrièmes de couverture, qui me fait un topo de chaque livre. On discute, des fois on s'appelle. Elle me dit de quoi ça traite. Elle me donne quelques exemples qui sont présents dans le livre, qui seraient susceptibles de m'inspirer. Elle commence à me connaître un petit peu. Et à partir de là, en quelques phrases, j'ai des images qui arrivent. Et puis parfois aussi je me documente sur les sujets. Et puis je fais une synthèse, enfin ça vient quoi, voilà.
Et tu dessines sur tablette, par ordinateur, ou tu dessines à la main ?
Les deux, je fais vraiment les deux, ça arrive que je peigne aussi, mais des fois ça peut être complètement numérique ou bien de la peinture ou du dessin à main levée, ça peut être les deux.
D'accord, et un dessin par exemple, moi j'en avais reçu Antoine Martin il y a quelques émissions en arrière, et j'avais été marqué par la couverture qui me paraissait vraiment belle et même très pertinente par rapport au sujet du livre. Je voulais savoir combien ça pouvait te prendre de faire ce genre de couverture.
Bah alors là, ça a été très rapide parce que j'ai lu le livre qui m'a beaucoup parlé puisque je suis sensible au sujet qu'il traite. Et c'est venu tout de suite. Voilà. Donc après, ça n'a pas été compliqué vu que le sujet, c'était le tableau de Michel-Ange. Ah, pas le tableau, le plafond de la chapelle, carrément. Dont j'ai tiré seulement Adam, que j'ai répliqué, sur un fond que j'avais réalisé il y a plusieurs années, en peinture, comme ça, abstraite. Et voilà, le cocktail était fait.
En général, les auteurs contre-culture, tu es en interaction avec eux, j'imagine. Est-ce que parfois il t'est arrivé d'avoir des difficultés à réaliser la couverture qu'eux souhaitaient ?
Alors non, je ne suis pas en interaction avec eux. Je leur montre la couverture quand elle est réalisée. Et ça, c'est une volonté du directeur de collection, Alain Soral, parce que bon, il fait confiance à son équipe. Anne, elle a les coups des franches pour travailler. Et moi aussi, j'ai toute l'attitude pour travailler. Si ça va pas, ça va pas, on refait. Mais je n'interagis pas avec. Ça peut arriver que je demande. J'ai vu Jacob Cohen par exemple aujourd'hui, et il m'a donné une petite direction pour son prochain livre. Mais voilà, après j'ai carte blanche.
Marie, merci beaucoup en tout cas.
Ben, merci à toi et à Xavier.
Claire Colombie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes à l'AG d'égalité et réconciliation. On a vu que vous alliez bientôt débattre avec, contre ou avec Laurent Guyenot. Comment vous voyez ce débat? Comment vous le sentez?
Je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais, pas avec impatience parce que je fais autre chose dans la vie, mais vraiment... ça me fait très plaisir, ça me fait surtout très plaisir de débattre avec quelqu'un qui est un autre camarade ER et que des militants d'ER puissent venir poser leurs questions et qu'on puisse avoir un débat dessus, présenter des arguments et voilà, en discuter, on va dire, sereinement. Mais quand même, de pouvoir présenter mes arguments et qu'on puisse avoir un débat sur cette question.
Alors pour préciser, c'est la question du récentisme, la théorie de la nouvelle chronologie d'Anatoly Fomenko. Vous pensez qu'il n'y a vraiment rien à sauver ?
Il n'y a absolument rien à sauver d'Anatoly Fomenko, qui invente une théorie ex nihilo et qui ensuite essaye de la faire rentrer dans l'histoire. Donc Fomenko, c'est de l'ultranationalisme. Avant la Russie, point d'histoire. Après la Russie, point d'histoire. Hors de la Russie, point d'histoire. Voilà.
Parce qu'il explique que Rome, c'est Moscou, en fait. C'est ça qui vous dérange ?
Non, parce qu'il explique que les Cosaques russes ont créé les samouraïs, et on le voit par rapport à la ville de Samsara, et qu'ensuite ils ont traversé le détroit de Bering, et qu'ils ont créé les Incas et les Mayas, et que le fils de Gengis Khan s'est fait enterrer sous les pyramides au XIVe siècle, qui avaient été construites à l'occasion.
Mais c'est graphique en forme de sapin, parce que pour résumer la théorie, il explique que il y a trop d'histoires dans l'histoire et qu'en fait, certaines histoires sont racontées deux fois par des peuples différents et ce qui crée deux histoires. Par exemple, il explique que Saint-Georges et Gengis Khan, je crois, sont la même personne ou que Charlemagne et Othon sont le même empereur et il fait par ailleurs un parallèle entre les rois de Judée, je crois, et les empereurs byzantins. Et il propose des graphiques selon leur tranche de règne et qui forment des sapins et qui prouveraient que en fait, c'est la même histoire racontée deux fois. Est-ce que vous ne pensez pas que dans sa théorie, on peut au moins sauver et parce qu'il est intéressant, le travail de historiographique sur la chronologie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire de la chronologie?
Alors, l'étude de l'histoire de la chronologie et le révisionnisme historique est salutaire et normal, et chaque historien doit le faire. Fomenko, il n'est pas historien. Une partie de son travail historiographique, c'est dans ma première vidéo qui avait été publiée sur ER, il est bidonné. Donc moi, je n'ai pas confiance en quelqu'un qui ment. Donc c'est pas les graphiques en sapin, mais quand il voulait mettre les chronologies de la fin des empereurs romains avec les empereurs carolingiens. Et ensuite, non, je ne pense rien à sauver, puisque vous comprenez bien qu'on ne peut pas être né au même moment que sa grand-mère, son arrière-grand-mère et son enfant. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, pour moi, vraiment, Fomenko, c'est vraiment en plus le récentiste dans lequel il n'y a rien à sauver.
Et Forisson ?
Alors, Forisson n'est pas récentiste. Et en fait, si je réponds à la question, je risque d'aller en prison. Donc, vous voulez quand même pas mettre vos militants ER en prison, c'est le but ?
Ah non, pas du tout, mais ils vous embêtent.
Fomenko, non, Forisson, oui.
Claire Colombie, merci beaucoup en tout cas. Puis bon courage pour votre débat, on regardera ça avec beaucoup d'attention.
Merci.
Merci. Chers auditeurs, je me trouve avec Stéphane, le webmaster d'Égalité et Réconciliation, un membre historique de l'association, l'un des membres pratiquement fondateurs.
Fondateur, c'était un petit peu ambitieux. Fondateur parce qu'effectivement, le site, on a commencé à le penser et à réfléchir avec Alain en 2006-2007, lors de la création. Bon, finalement, il y a eu un blog qui a été mis en place par rapport à l'urgence de la situation. Il a fallu aller vite, alors voilà. Mais ça a permis de prendre le temps pour faire le site qu'on connaît aujourd'hui, parce que finalement, le site d'aujourd'hui, c'est le site de 2007, avec des évolutions. Évolutions tout au long des années qui se sont passées, et évolutions encore cette année, lors de l'Assemblée Générale, que je vais dévoiler
dans un instant.
Un petit teaser pour les auditeurs de RFM.
Je pourrais faire un teaser, mais le problème, c'est que la diffusion de l'émission allant être postérieure à l'information que je vais donner, c'est plus vraiment un teaser.
Plus sérieusement, est-ce que tu peux nous préciser un peu les audiences du site? Qu'est-ce que ça représente en termes de trafic? Où est-ce qu'on se positionne au niveau des blocs politiques en France et ainsi de suite?
Oui, alors bon, je ne connais plus tous les chiffres par cœur, mais je les ai là sous forme diapositive. Et je vais les montrer tout à l'heure, mais disons que, sans dévoiler des chiffres très confidentiels, mais ce sont des chiffres de toute façon qu'on peut retrouver plus ou moins avec des indicateurs comme Alexa, qui est très connu, on est autour... Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a une conjoncture particulière avec les attentats qui ont fait que nos statistiques ont plus que doublé. Mais ça va redescendre à des valeurs moyennes, avec quand même un petit gain, parce qu'à chaque fois qu'on a des événements de ce type, comme on a eu Valls en janvier 2014, Valls en janvier 2015, qui à chaque fois nous a permis de monter à des valeurs très élevées, bon, on est toujours redescendu, mais on gratte forcément un petit peu de stats avec des gens qui viennent, qui découvrent et qui restent. Voilà, donc espérons que ça soit aussi positif cette fois-ci, il n'y a pas de raison.
Et donc quelle est cette position, justement, par rapport aux autres sites ?
Alors, par rapport aux autres sites, on va dire des sites d'information, parce qu'évidemment, si on regarde les 500 ou les 1000 premiers sites les plus visités en France, il y a des sites, bon, déjà nationaux et internationaux, toutes sortes de sites, hein, les premiers étant même internationaux, Facebook, YouTube, etc. Il y a beaucoup de sites, on va dire... pour adultes, qui se trouvent, c'est comme ça, hein, malheureusement, mais c'est, voilà, donc si on élague tout ça et qu'on reste sur des sites d'information purs dont on fait partie, donc on a, bon, le Figaro, le Monde, etc., dans des positions très très bonnes, hein, 15e, 16e, 17e position des sites les plus visités en France, bon, et puis ensuite, on a des grosses radios, RTL, quelques médias de ce type. Même on a Libération qui est loin derrière, mais enfin qui est quand même pas trop mal positionné. Puis après, on a au niveau de à peu près de la 400e place, tout site confondu, hein, donc 400, c'est pas mal. On arrive à ER. Sachant que, alors là, c'est pareil, j'aurais dû prendre mes papiers pour les avoir sous la main, j'aurais pu vous donner des informations plus précises, mais on est devant. Alors on se tire la bourre avec Mediapart, pour dire quand même le niveau, hein, Mediapart étant infiniment plus évidemment médiatisé que nous. Il devrait, en toute logique, avec son niveau de médiatisation, être très loin devant nous. Ce qui prouve que si on avait le niveau de médiatisation de Mediapart, on serait très très loin devant eux. Donc 400e place, c'est pas mal. On est loin, très loin devant des gros médias quand même, comme je crois alors même le site de France Info, le site du Monde Diplo, le site... voilà, et puis alors dans la dissidence, on est très loin devant tout le monde, on va dire. Il y a F2 Souche qui est derrière nous, hein. Très clairement, il doit être 550, 600e place. Mais sinon, le reste est très loin, quoi. Hein. Agora Vox, Voltaire, Réseau Voltaire, etc. Là, on est loin derrière, quoi. Donc, enfin, ils sont loin derrière.
Et par rapport aux attaques, est-ce que celles-ci sont de plus en plus fréquentes ?
Pas de plus en plus fréquentes, parce qu'elles sont fréquentes, déjà. En fait, on les attaque très, très régulièrement. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas une attaque, mais ce sont des attaques qui échouent systématiquement, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, parce qu'on a quand même depuis 7 ans, 8 ans, une maîtrise de l'attaque et on commence à bien maîtriser ce genre de menaces. Donc ce qui pouvait encore un peu fonctionner il y a quelques années, aujourd'hui ça ne fonctionne pas, quoi. Donc pour qu'on soit attaqué, il faut que ce soit soit gouvernemental, soit vraiment enfin, du costaud. Voilà, donc, mais on est attaqué régulièrement, ouais, effectivement, mais c'est à chaque fois transparent à l'utilisateur ou quasiment transparent. Ça peut arriver que certains internautes qui tombent à ce moment-là voient une fenêtre d'avertissement qui prévient que nous sommes actuellement sous attaque, mais voilà, le site se met en mode de sécurité, mais sinon, effectivement, non, on a vraiment, vraiment verrouillé au maximum. Enfin, bon, même la NASA se fait hacker, hein, donc pourquoi pas ER, hein, mais enfin, bon. Voilà.
Et comment tu vois l'évolution du site à court, moyen et long terme ? Est-ce qu'il y a des choses prévues que tu peux annoncer aux auditeurs ?
À quoi doivent-ils s'attendre ?
Eh ben, au meilleur, bien sûr. Le site, c'est un... Bon, c'est évidemment le navire principal, hein, pour ER, parce que c'est évidemment avec le site qu'on touche les gens, qu'on se fait connaître, qu'on délivre l'information, la bonne nouvelle et les mauvaises aussi, malheureusement, souvent. Et donc, c'est un élément important, et c'est pour ça que on l'a fait évoluer au fur et à mesure du temps. Et il s'est posé la question, comme elle se pose pour beaucoup, d'une version nouvelle, une version totalement refondue, quoi. Mais on l'a repoussé, on l'a beaucoup repoussé, on la repousse encore. Et donc, je ne peux pas vous annoncer qu'on va faire une nouvelle version, totalement nouvelle. Parce que finalement, je pense que le site actuel est quand même pas mal. Il y a des évolutions, il y a des choses à faire. Il y a, ça c'est par contre une nouvelle information, la version mobile du site qui a été refondue parce que nous avons rendu le site responsive, comme on dit chez les geeks. C'est-à-dire qu'effectivement, le site répond maintenant à la taille de l'écran. Donc sur les tablettes ou sur les téléphones portables, le site prend une forme nouvelle. Il s'adapte à la taille de l'écran. Et donc, on n'a plus l'horrible site mobile qui, à l'époque, se justifiait parce que, bon, il y avait 3-4% de gens qui allaient sur le site en version mobile, sur leur téléphone. Aujourd'hui, on a 25% des gens. Un quart des gens sont sur le site par leur téléphone. Donc, on ne pouvait plus garder le site mobile actuel qui était totalement obsolète. Donc, celui-là est bien mieux en termes d'ergonomie et aussi en termes de commentaires parce que les commentaires étaient pas toujours à jour, enfin c'était très, voilà. Alors là on a les commentaires à jour, on peut même commenter, enfin ouais non c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Donc mais en tout cas pas de version 3 puisque on peut dire quelque part que c'est la version 3, c'est-à-dire qu'on va pas on va jouer la tradition on va garder le site actuel et on va l'améliorer et je pense que c'est mieux parce que les gens sont beaucoup habitués à ce site et à sa forme et le changer complètement est quand même risqué, quoi. On peut faire mieux, mais il y a très forte chance pour qu'on fasse moins bien.
Beaucoup de gens réclament une application. Est-ce que ce projet est à l'étude ?
Alors, il est dans le bureau d'études, effectivement. Parce que, alors, avec la nouvelle version mobile, déjà, quand même, là, on fait un grand pas pour l'humanité, hein, comme dirait l'autre au studio de Bénichou. L'application, quel est l'avantage de l'application ? C'est essentiellement de pouvoir être bippé quand une actualité arrive, quand un nouvel article arrive. C'est la notion de push. C'est intéressant, c'est vrai, ça permet la réactivité, ça permet de ah, tiens, une information qui tombe, etc., comme un espace de tweet. Donc c'est un plus en soi, mais la version mobile, c'était vraiment important. Mais l'application, oui, puis d'autant que c'est vrai que ça va pas être très compliqué à faire, globalement. Faut qu'on le fasse et ça sera la prochaine étape, ouais.
Stéphane, merci beaucoup.
Merci.
Okan, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le garde du corps d'Alain Soral. Vous avez assisté à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'est la troisième Assemblée Générale à laquelle j'assiste. C'était très bien, c'était assez drôle. Ça fait du bien. On voit la progression du mouvement, donc ça fait du bien. C'était très bien.
Vous avez pu parler avec des militants, des cadres d'Égalité et Réconciliation. Vous trouvez que l'ambiance est comment au sein d'Égalité et Réconciliation ?
Moi, je suis au cœur de l'association. Je suis 24/24 avec Alain, excepté chez lui. Je connais un peu tout le monde et j'ai envie de dire tout se passe bien. En interne, tout se passe bien.
C'est pas une secte.
Non. non, c'est pas une secte du tout. Et non, et en plus, pour l'histoire, ça fait 6 ans que je travaille pour Alain, 2 ans que je travaille à temps plein, et c'est pas du tout une secte. Au départ, il y a 6 ans, j'étais bénévole avec mon grand frère. On est venu suite à l'agression qu'il avait de Gamal Abina au Théâtre de la Main d'Or. C'était il y a à peu près 6 ans, oui. Donc après ça, moi et mon frère, étant donné qu'on est musulmans, on n'a pas supporté que des musulmans viennent au nom de leur association de merde pour en découdre avec Alain, etc. Donc on est venu bénévolement pour assurer sa sécurité. Donc au départ, ça s'est passé comme ça. Et on avait, étant donné qu'on a une entreprise de sécurité, petit à petit, on a commencé à coopérer. Donc
c'est un engagement très progressif, c'est pas un endoctrinement.
Au départ, oui, mais bon, maintenant, je suis salarié, j'ai ma petite famille et je vis grâce à Alain, quoi. Mais je suis là pour lui, je le protège. Mais je rassure les gens, dans la rue, on va dire tout se passe bien. Je me prépare à tout, mais en général, tout se passe bien.
Et alors, vous avez un contact direct avec Alain, et notamment, vous voyez les interactions qu'a Alain avec, avec la population parisienne. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça ?
Ça fait des années que je...
Bah, pareil, tout se passe bien en réalité. Les gens sont impressionnés de le voir. C'est aussi marrant de voir, bon, je vais raconter quelques petits trucs, parce qu'en général tout se passe bien, mais c'est marrant de voir des policiers, des CRS, des agents de la BAC devenir tout d'un coup tout timide face à Alain et dire « Oh monsieur Alain, j'admire votre travail bon, ». Je les comprends d'un côté, mais ça fait drôle de les voir comme ça dans cette situation. Et y a des professions, par exemple, la plupart des serveurs sont dans les bars sont pro-soral, on va dire, ou en tout cas admirent le travail d'Alain. Tout se passe bien en réalité. Peut-être une ou deux fois, il s'est passé, des gens se sont levés de table pour se plaindre de la présence d'Alain, mais en deux ans, peut-être une ou deux fois, on va dire qu'il a subi pas mal d'agressions, mais ça fait deux ans qu'on va dire... Ça va, ça s'est calmé, on va dire. Grâce à moi ou pas, je ne sais pas.
Et du côté des people, des gens plus connus, qui peuvent croiser Alain également dans les rues de Paris, parce qu'on croise souvent des people dans les rues de Paris.
Alors, on vit dans un quartier assez calme dans Paris. Donc, quartier calme dans Paris veut dire quartier où pas mal de people se promènent. On a croisé pas mal de gens. Vraiment, on a croisé pas mal de gens. On croise souvent... on a déjà croisé BHL, Finkielkraut, Éric Zemmour, donc je vais pas en dire plus parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas, j'ai pas envie de foutre les gens dans la merde, mais on a croisé pas mal de gens. Bon, avec Zemmour, ils se sont salués très sympa, très
cordialement,
voilà. Avec Finkielkraut, bon, ça court assez vite, mais bon, Alain va pas agresser les gens, ni même moi, donc on les laisse fuir, on va dire. On a déjà croisé bon, tout plein d'artistes, Moscovici, bon, je l'ai déjà dit. Non, bah, au niveau des people, d'un côté, je ne peux pas en dire plus. Parce que
on comprend parfaitement, bien sûr.
Oui. Je ne suis pas là pour créer de polémique ou quoi que ce soit. Mais pour dire que... Et pour dire deux, trois petites choses, étant donné que je suis avec Alain tout le temps, bon, parfois je fais ses courses, etc. Je peux dire qu'il a une hygiène de vie assez incroyable. Très, très... Déjà, il bouffe très bien. Enfin, il bouffe, on va dire, bio... Il ne bouffe pas de cochonnerie, il ne boit pas de boisson, il ne boit même pas d'alcool en réalité, jamais. Chez lui, jamais. Peut-être un verre de vin à table, mais jamais chez lui. Il a une hygiène de vie assez...
Assez saine.
Oui, assez saine, même on va dire au-delà de la moyenne. Très, très propre.
Okan, merci beaucoup pour ces informations. Et puis,
je vous en prie, bah, de toute façon, on se connaît bien.
Bonne soirée à toi.
Oui, bon courage à toi et bravo pour votre boulot, à toi, Xavier. A plus.
A plus. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu à l'AG d'égalité et réconciliation ?
Bon, je suis venu à l'AG parce que je suis à la fois adhérent et militant d'égalité et réconciliation. Je suis arrivé à égalité et réconciliation il y a 3 ans. J'ai adhéré alors que j'avais 18 ans. Donc, jeune, très jeune adhérent. J'ai commencé à militer assez vite, au bout de quelques mois. Et ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je suis militant. Et je m'occupe, étant donné ma formation, de tout ce qui va être autour du graphisme chez Égalité et Réconciliation. Alors j'ai commencé à travailler sur les vidéos du mois, aider l'équipe multimédia là-dessus. Et puis petit à petit, en grandissant dans l'association, on m'a confié des projets un peu plus gros. Et je suis venu à travailler... graphiquement, à concevoir le site de Réconciliation Nationale, à créer toute la charte graphique de Réconciliation Nationale, à créer le nouveau template de la newsletter Contre-Culture. Il y a le site Prenons le Maquis, dont j'ai refait complètement le site graphiquement, qui va arriver bientôt. Pareil, c'est une de mes réalisations. Donc, voilà. Et en plus de ça, j'ai repris depuis un an avec un autre camarade la direction du café littéraire d'Île-de-France. Voilà.
D'accord. Et donc, tu as certaines responsabilités au sein de l'association ?
Alors, responsabilité, oui et non. C'est marrant parce que le travail le plus, comment dire, le plus important sur un point de vue de répercussion, ça va être la newsletter contre culture, ça va être le site Réconciliation Nationale. Mais en fait, c'est pas les travaux sur lesquels j'ai le plus de responsabilité. Là où j'ai le plus de responsabilité, ça va être sur quelque chose de plus modeste, qui est par exemple le Café Littéraire, où là c'est vraiment moi qui dirige. J'ai un total feu vert et une totale confiance de la part de la hiérarchie de la section Île-de-France, notre responsable Île-de-France. Et donc je gère le Café Littéraire avec mon camarade. Et donc là-dessus, on est totalement autonome. Donc là, c'est vraiment une gestion. On doit gérer le planning, gérer les gens aussi. C'est-à-dire que là, il faut faire une gestion humaine au sein du quand on dirige un Café Littéraire. Pour que ça se passe bien, il faut bien organiser. Il y a une question de logistique. Voilà, donc là, c'est là où il y a vraiment une responsabilité. Après, sur mes côtés, sur le côté... réalisation graphique, il y a également aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'on s'engage à quelque chose. Quand on dit je vais le faire, c'est bon, on dit oui à nos supérieurs qui nous confient cette tâche. Il faut s'engager effectivement à respecter les délais, parce qu'il y a un engagement, derrière il y a des gens qui attendent, c'est-à-dire le Parti Réconciliation Nationale, il y a des gens qui l'attendent. Donc il y a une responsabilité aussi par rapport à la hiérarchie qui me passe commande, entre guillemets, quoi, si on veut, parce que maintenant je suis en auto-entrepreneur aussi pour Égalité et Réconciliation, donc
d'accord.
C'est une vraie collaboration. Et puis aussi par rapport à tous les militants qui vont attendre quand je travaille sur les vidéos du mois, il fallait qu'il y ait la vidéo qui sorte, donc c'est aussi par rapport à ces militants, quoi, qui attendent de la production derrière.
Et par ailleurs, tu travailles, t'as un travail, comment se passe la cohabitation entre ces deux activités?
Alors oui, à côté de ça, en fait, je suis en... J'ai même plusieurs choses, parce que je suis toujours en étudiant, je suis en alternance dans une école, donc je ne vais pas le dire le nom, mais dans une école de graphisme assez réputée. Je finis ma formation et je suis en alternance, donc à côté de ça, je travaille aussi en entreprise, dans une agence, où effectivement, on se retrouve dans un milieu, en plus le milieu de la communication, de la création graphique, c'est un milieu qui est... Bon, assez communautarisé, hein, il faut le dire. Mais surtout aussi idéologiquement très, très bobo, entre guillemets, très marqué par le lobby. Enfin, il y a beaucoup d'homosexuels, par exemple, aussi. C'est vrai que c'est très majoritaire, hein, quand même. Hein, une idéologie très gauchiste, mais très gauchiste au sens altermondialiste, nos frontières, enfin sans frontières, LGBT. Enfin, vraiment l'opposé de ce qu'on incarne, nos égalités et réconciliation. Donc ça fait maintenant quasiment plus de 2 ans que je travaille dans cette agence-là. Avant ça, j'ai travaillé aussi chez SNCF, par exemple. Donc quand on travaille dans une agence comme ça, il faut être malin, il faut être discret, c'est de la gymnastique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver parce qu'on pense qu'on est dans la vérité, débarquer comme un char d'assaut, alors qu'on n'en est pas un d'ailleurs. Et croire qu'on va tout défoncer, qu'on va tout changer. Non, il faut être très malin. Si on ne veut pas vivre un enfer, parce que bon, on a signé un contrat et on ne peut pas être viré, surtout quand on est en alternance. Ça peut être un enfer. Donc il faut être malin, il ne faut pas se dévoiler. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est un vrai travail qui amène à beaucoup plus de maturité. Le fait d'être dans l'adversité, d'être en contact permanent avec des gens qui ne sont pas du tout de notre bord. Et surtout de ne pas dévoiler ces idées, parce qu'on sait que ça va être forcément du conflit, parce que c'est avec ces gens-là, c'est forcément du conflit. Quand on nous dit, quand au travail, on me dit que par exemple Jean-Marie Le Pen mériterait d'aller au goulag, je caricature, mais c'est à peu près ça. Et si on ose dire que bah, finalement on l'aime bien, c'est un conflit mais énorme qui va exploser.
C'est-à-dire que eux-mêmes qui se revendiquent de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, en réalité, sont extrêmement intolérants au quotidien.
Oui, tu connais bien ça, mais... Tu connais le problème, mais effectivement, oui, bon, ça c'est là, on pourrait digresser et aller sur les contradictions du discours de tolérance de cette gauche humaniste et droit de lobbyiste. Mais bon, c'est pas tellement ça que je veux exprimer. Ce que je veux exprimer, c'est vraiment le travail que le militant a à faire quand il est à la fois engagé dans l'égalité et réconciliation et dans le système, d'une certaine manière. Parce qu'on peut pas être totalement militant, c'est quelque chose d'assez rare, d'assez exceptionnel, quoi. Il faut d'une part le mériter, parce qu'il faut une pleine confiance de la hiérarchie d'égalité et de conciliation pour qu'on vous engage en militant complet, ou alors une autonomie, il faut être rentier, quoi, quelque part, pour pas dépendre d'autre chose. Mais la plupart des gens ont un travail, ils militent et puis ils ont un travail à côté, donc faut être malin. Il faut pas croire qu'on est plus fort que tout. faut comprendre que le système est violent, qu'on peut vite être mis sur le banc de touche. Et donc, il faut s'adapter. Le critère, c'est s'adapter et être dans l'équilibre. Je veux dire, il y a des gens dans le système, comme par exemple quand moi je travaille en agence, qui sont adorables, qui ont des qualités, mais qui, je sais, d'un point de vue idéologique, il sera impossible de tenir un discours politique, théologique, philosophique avec eux, parce qu'ils n'auront soit pas le niveau, soit ils seront sur des prises de position tellement opposées aux nôtres, ça sera le conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est de développer quand même avec ces gens-là des relations plus simples, basées sur d'autres choses. Et ça vaut même, je dirais, dans la famille. Moi, je parlais de ma relation, si je peux parler de ma relation familiale, quoi, parce qu'on évoque la vie professionnelle, mais il n'y a pas que ça, il y a la vie familiale aussi à côté du militantisme. Et moi, par exemple, ça se passe très bien, mais parce que je sais que dans mes dîners de famille, on n'évoque jamais des questions politiques. On va parler de choses, ça peut paraître risible, mais on va parler du dernier fondant au chocolat qu'a fait la grand-mère, parce que la recette, elle est géniale, et on va partager, et puis on a trouvé une super adresse de restaurant, tiens, cousine, va là-bas aussi, c'est génial. Deux choses plus simples, mais qui rapprochent, qui soudent une famille. Un tel va avoir un enfant, ah, c'est génial, regardez, mamie, tu vas être encore arrière-grand-mère. Voilà, des choses très simples. Mais c'est aussi le travail de militant de se dire, il y a un temps pour le discours politique, pour essayer de convaincre les autres d'idées politiques, etc. Il y a aussi des personnes. Et puis, des fois, il y a un temps pour autre chose, pour des choses plus simples, pour des choses qui rapprochent. Et il faut faire ce travail-là, cette gymnastique. Et je crois que c'est vraiment crucial pour avoir un bon équilibre. Et on voit, je pense, hein, chez certains militants qui arrivent et qui s'engueulent avec toute leur famille, parce que du jour au lendemain, ils disent « Regardez, Soral, c'est trop bien !» Et toute leur famille leur dit « T'es malade, c'est un facho, tu deviens facho !» Et ces gens-là arrivent et explosent comme ça parce qu'ils ont l'impression de découvrir le discours de vérité qui est peut-être, en tout cas on a l'assumption de dire, enfin la prétention un petit peu de dire que oui, on pense être dans la vérité, c'est vrai. Mais il faut être humble, je pense. Il faut vraiment être humble et savoir, il y a des gens aussi qui sont pas réceptifs. Il faut arriver aussi à calculer qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, il y a des gens qui sont plus disposés que d'autres à accueillir un discours. Il y a des personnes avec qui on voit, bon, il y a peut-être une opportunité, il y a une porte qui s'entrouvre, je vais pouvoir me glisser dedans et commencer à aborder des sujets petit à petit par des médiations, amener une réflexion. Mais voilà, faut être malin. Je crois que c'est vraiment un critère important que celui de l'adaptabilité chez les militants. Il faut s'adapter à tous les contextes. Je pourrais dire que au sein même de l'égalité et réconciliation, le fait de militer, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris à mes dépens, ça, je vais faire preuve d'humilité, qui fait grandir et qui... On fait des erreurs dès le début, on arrive, on est adolescent et... Enfin moi en tout cas, je suis arrivé à 18 ans, mais même quand on est un peu plus vieux, on arrive avec toute cette société qui nous a éduqués dans un quant à soi, dans un vous pouvez le faire, personne ne doit vous dire ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous devez faire, quelque chose de très je peux tout défoncer si je veux. Et on arrive et on pense un peu cela, et puis finalement on comprend que il faut vite réaliser quelle est notre place au sein de l'association, quelle est la place qu'on veut bien nous octroyer en fonction de nos compétences, en fonction de ce qu'on peut apporter. Et à respecter cette place, prendre bien conscience de la hiérarchie, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je suis arrivé, pour donner un titre exemple, c'est pour ça que je vais parler avec un peu d'humilité. Je suis arrivé, je me suis mêlé de choses dès le départ qui ne me concernaient pas, et on m'a rappelé à l'ordre, et je l'ai très vite compris, et je le dis maintenant, c'était très bien qu'on me rappelle à l'ordre, parce que on arrive, parce qu'on nous prend un peu, on dit ça y est, on nous fait confiance un petit peu, on se sent pousser des ailes, ça y est, on me fait confiance, je suis égalité et réconciliation, ça y est, j'ai mon rond de serviette, comme dirait l'autre. Donc, d'un seul coup, on prend trop de confiance et on va dans des directions dans lesquelles on ne devrait pas aller. On croit qu'on est trop important. Notre ego en prend un coup. Enfin, on prend un coup dans le sens où notre ego grandit alors qu'il ne devrait pas. Et donc, du coup, on fait des faux pas et on devient gênant. Donc c'est important de se faire remettre à sa place, et c'est là où on grandit, où on prend conscience, et c'est ça la société aussi traditionnelle, hein. C'était prendre conscience de quelle est notre place, qu'au-dessus de nous, il y a une hiérarchie, et qu'on n'est pas noble à la place du noble quand on est paysan, mais ça ne veut pas dire qu'on est une sous-merde, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on est une sous-merde, ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas à la hauteur d'Alain Soral en tant que graphiste d'égalité et de conciliation, ça ne veut pas dire que je suis une sous-merde. Pour avoir discuté un peu avec lui, il a du respect pour ce que je fais, parce que c'est un échange, parce que lui il n'est pas capable de le faire, mais moi je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait, et il nous apporte quelque chose, et c'est aussi quelque chose comme ça qu'il faut concevoir comme ça, c'est que chacun a sa place, voilà. Et ça, c'est important aussi pour le militant de qu'il comprenne ça assez rapidement, parce que sinon, il risque de dégager, quoi. Il risque d'être gênant déjà pour l'association, pour son développement, et puis il risque de se faire virer, parce que c'est un comportement qui ne peut pas durer sur le long terme, de ne pas savoir où on est, de vouloir aller trop haut, alors qu'on doit rester à sa place. Voilà, je pense avoir fait le tour un peu de la question.
Très bien, Nicolas, merci beaucoup.
Mais de rien.
Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vaut vin gaulois. Mieux que bière ou vin de pomme, mieux vaut vin gaulois. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Glaive, maître des batailles, glaive, honneur à toi. Glaive, maître des batailles, glaive, honneur à toi. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Chant du glaive bleu qui frappe, chant du glaive roi. Chant du glaive bleu qui frappe, chant du glaive roi. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Qu'au soleil le fer flamboie comme l'arc-en-ciel. Qu'au soleil le fer flamboie comme l'arc-en-ciel. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Flambeau des quatre horizons, fêtons le soleil. Flambeau des quatre horizons, fêtons le soleil. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Brasier de l'été nouveau, fêtons le soleil. Brasier de l'été nouveau, fêtons le soleil. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Roue de lumière à minuit, fêtons le soleil. Roue de lumière à minuit, fêtons le soleil. Tant, tant, clair et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Vire au feu la ronde ancienne, fêtons le soleil. Vire au feu la ronde ancienne, fêtons le soleil. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil. Faire dans ces feux de vin, faire dans ce vin. Faire dans ces feux de vin, faire dans ce vin. Tant, tant, terre et ciel, chêne, feu, rouge et soleil. Tant, tant, glaive, clair, flot de sang vermeil.
Jacob Cohen, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ici à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation. Mais qu'est-ce que vous faites ici ?
Comme je suis adhérent, donc je partage ce privilège de rencontrer les camarades.
Alors, vous voyez toute cette jeunesse-là qu'il y a ici. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est formidable. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, de désir. Vraiment, il y a une envie de militantisme, de participer, de lire, de s'instruire, de partager. Moi, je trouve ça formidable.
Jacob, une petite réaction par rapport aux récents événements à Paris, aux attentats ?
Comme j'ai donné une interview à Algérie Patriotique et j'avais dit à peu près ceci, quels que soient les manipulateurs qui sont derrière, qu'on ne connaîtra probablement jamais, le pouvoir, on aura atteint le but, c'est-à-dire de mieux contrôler la société, de se débarrasser des règles de droit. Et surtout pour les musulmans, ça va être un moment très difficile et très dur. Et peut-être aussi parce que j'avais évoqué la haine, c'est-à-dire on va taper sur tous ceux qui provoquent la haine, entre guillemets. Et donc ça pourrait nous toucher aussi parce que nous sommes dans l'œil du cyclone. nous sommes dans la ligne de mire du pouvoir. Et donc ça pourrait venir.
Une dernière question, vous revenez d'Algérie, qu'est-ce que vous y étiez venu faire et comment s'est passé ce voyage?
Donc j'étais invité par l'Union européenne, c'était dans le cadre des rencontres euro-maghrébines autour du polar. Parce que comme dans ma production littéraire, il y avait aussi du polar.
On a vu ça dans notre dernière mission avec vous sur
donc,
RFM.
Donc ils m'ont invité et j'ai participé à des colloques. Ils avaient invité des écrivains de divers pays. Alors, nord-africains et européens, italiens, hongrois, c'était vraiment grec, c'était passionnant. Le cadre était magnifique. Moi, j'ai bénéficié aussi de la possibilité d'avoir quelques amis, quelques connaissances, dont une journaliste d'Algérie patriotique, une avocate qui m'a donné des relations là-bas, des contacts. Donc, pour moi, ça a été merveilleux. Voilà, c'était parfait, tout était fantastique. Puis on a eu un temps superbe.
Vous étiez dans quelle ville ?
Alger.
D'accord.
Et donc, Alger a gardé beaucoup de son patrimoine. Bon, certes, il est un petit peu, il se déglingue un petit peu, mais on sent quand même que c'était une vraie perle d'Afrique du Nord. Bon, je crois que je ne vais pas entrer dans les... comment dire ? Dans les détails du pays, etc. Parce que, vous savez, je viens du Maroc, donc, il y a pas mal de similitudes entre ce qu'on a gardé du colonisateur, comment on l'a perpétué, le laisser aller, etc. Il y a une espèce, c'est vrai, qu'il y a une similitude entre ces deux pays. Et encore, finalement, je me dis, je ne suis pas nationaliste, mais je me dis que le Maroc, sans le pétrole et le gaz, s'en tire beaucoup mieux. Et c'est vrai que le Maroc a une agriculture qui marche. Il a quand même une industrie qui marche. Il a un réseau routier qui marche. Ce que tout ça en Algérie, j'ai l'impression que malgré leur fric, qu'ils dépensent à tort et à travers, ils font pas grand-chose. Et ça fait mal au cœur de voir un pays avec autant de potentialités qui se laisse vaincre par une espèce de lassitude,
de fatalité, de
corruption.
D'accord. Jacob Cohen, merci beaucoup. Où en est l'écriture de votre livre dont vous aviez parlé dans notre émission ?
Alors, en principe, il y a un livre qui va sortir au mois de janvier, hein, donc qui s'appelle « Confession d'un Sayan ».
C'est ça.
Donc, en principe, il sort janvier ou février, en tout cas, on m'a dit début 2016.
D'accord.
Et bien, donc, il s'agit de l'histoire d'un journaliste de Libération qui se confesse et qui nous apprend comment et pourquoi il est devenu un Sayan. Et c'est une aventure qui aura duré 3 mois. Et donc, c'est un petit peu... J'ai essayé de décrypter la manière dont Libération, tout en critiquant guillemets Israël, finalement lui donne une crédibilité, une légitimité. Voilà. Et sinon, j'écris un nouveau roman dont je ne peux pas parler.
D'accord. Bah, écoutez, on va surveiller tout ça sur le site de Contre-Culture. Puis on vous invitera pour un autre numéro de L'heure la plus sombre.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Jacob Cohen. Jean-Marie, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Alors, tu es le responsable de la section Île-de-France. C'est toi qui as organisé l'AG d'égalité et réconciliation à laquelle nous venons d'assister. Comment s'est passé l'AG, selon toi ?
Ma foi, très bien, je pense, comme d'habitude. Je pense que tout le monde, dans l'ensemble, est très satisfait. Les camarades militants ont bien bossé. Et puis, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé.
Quelle évolution pour la section Île-de-France ?
Évolution pour la section Île-de-France ? Ben, ma foi, j'ai une bonne équipe en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai essayé de construire un noyau dur qui tienne la route. Donc j'ai bien l'intention de continuer à développer la section. Et puis déjà pour moi, un objectif principal, c'est de relancer la map qu'on avait en début d'année et qui s'est un peu éteinte. Là.
Donc, la map, est-ce que tu peux préciser pour nos auditeurs ?
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui est racine locale, qui était gérée par un camarade. Donc, j'aimerais bien relancer ça. C'était un peu arrêté, mais c'était vraiment sympa d'avoir un panier par mois et des produits locaux, sains et enracinés. Et puis, continuer sur la lancée avec cette bonne équipe.
Jean-Marie, merci beaucoup.
Mais de rien, c'était un plaisir.
Éric, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Éric Sanceri, tu es un entrepreneur du sud de la France.
Oui, exactement. un entrepreneur un peu dans la difficulté parce que les temps sont durs.
D'accord, et tu as décidé de t'associer à ce que ER appelle l'économie solidaire, c'est ça ?
Absolument, j'ai même un petit peu, j'espère, contribué à lancer la chose, hein, puisqu'on a fait une vidéo récemment en deux parties sur le site. Et puis, de fait, j'ai pu vérifier qu'il y avait de la solidarité au sein de ER. J'ai déjà eu des propositions de gens qui sont dans le web marketing.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Quel est le concept de l'économie solidaire promu par ER ?
Ben, pour l'instant, le concept, on est en train de le faire en même temps qu'on l'imagine. Il y a des réglages à effectuer, c'est ce que je veux dire. On n'a pas forcément un plan écrit sur 200 pages. On n'a pas une stratégie globale pour l'instant qui est définie dans les détails. Mais l'idée, c'est de mettre en rapport des chefs d'entreprise divers dans toute la France, des gens qui ont des choses à s'apporter, des échanges à faire. Alors ça peut être des échanges d'idées, de bons procédés, de marchandises, etc. On essaye de sensibiliser les entrepreneurs au fait que la solidarité, ça peut être leur survie. Et travailler chacun chez soi en se foutant de ce qui se passe dans l'usine, la petite usine à côté ou la petite entreprise voisine, c'est un peu dommage parce que aujourd'hui certains vont bien, demain ils iront mal. Donc aider les amis, ça peut être vraiment la porte de sortie pour beaucoup de monde.
Je voulais savoir comment vous expliquez ce paradoxe du libéralisme qui est promu par nos élites politiques et à la fois la difficulté d'entreprendre en France, tout le monde s'accorde à le dire. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
On nous bourre le mou, mon ami, c'est comme ça que ça se passe, donc on nous raconte n'importe quoi. Il y a d'un côté... on affiche une volonté d'aider les entreprises. Tu vois, la Banque Populaire qui dit « pas populaire par hasard, on est derrière les PME », tout ça. Ça, c'est bullshit, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est n'importe quoi. Dans ce pays, bon, j'ai mis du temps à le comprendre. Hein, et puis, quelque part, je l'ai subi, puisque moi, j'y suis allé bille en tête, j'y ai cru. Hein, leur système libéral qui marche pas, enfin, qui marche pas pour les petits. Et j'y suis allé bille en tête, mais au résultat, on voit bien que ce qui est la volonté de l'Empire, c'est d'avoir des esclaves d'un côté qui produisent pour des multinationales. Les mecs comme moi, on fait pas partie du programme, ça c'est très clair. Les entrepreneurs, les indépendants, on les embête. Hein, parce que par essence, on a tendance à penser par nous-mêmes, à être un peu débrouillard, un peu entreprenant. C'est même notre métier. Mais ça fait pas partie du programme actuel, ça c'est clair.
C'est ultra-libéral pour les multinationales et c'est bolchévique pour les petits entrepreneurs comme vous en quelque sorte.
Bolchevique, je te dirais presque, j'aimerais bien. Voilà, ça serait sans doute mieux. Non, mais là, c'est un cauchemar. Enfin, pour quelqu'un d'un peu conscient qui a à peu près les idées claires et qui s'informe un minimum, et pour ça, je rends grâce une nouvelle fois à ce site qui est fabuleux, honnêtement. Hein, quand on parle de réinformation, c'est pas une blague. Là, on apprend vraiment des choses. Et les analyses du grand chef sont pertinentes à 99,99%. Quoi. Donc, c'est sûr que quand on voit comment les choses se passent, on se dit que chez Bolchevique, on n'était peut-être pas si mal. Hein, parce que là, c'est
au
vraiment...
Au moins, c'était clair. Attends. Au moins, c'était clair.
Oui, ben là, enfin, encore une fois, moi, je souffre là en ce moment, vraiment, parce que c'est pas seulement les soucis au quotidien. Parce qu'en gros, je vais t'expliquer, un gérant de PME, alors j'allais dire un PME en difficulté, mais c'est un pléonasme en ce moment, hein, à part les grosses PME qui ont éventuellement des contrats avec des boîtes publiques ou autres, bon, pour elles, ça se passe bien. Mais tous les artisans, les petits commerçants, les gars qui ont un petit business, soit ils souffrent, soit ils savent que ça peut venir très vite, hein, surtout en ce moment, tu vois, voilà. Donc... encore une fois, on a vraiment besoin de solidarité, on a vraiment besoin de se réunir et on a besoin de toute cette information qui passe sur ce site.
Alors Eric, justement, en associant l'image de votre entreprise à Égalité et Réconciliation, est-ce que vous n'avez pas peur de la diabolisation qui pourrait en découler ?
Oui, bien sûr. Il est clair que des dégâts collatéraux peuvent éventuellement se faire sentir. On peut m'embêter parce que je suis passé, parce que j'ai associé, oui, mon image à celle de ER, mais je n'en ai cure, cher ami, parce que en réalité, j'en suis plus là. Franchement, ceux qui ont un peu suivi l'histoire, je me suis fait massacrer injustement par une concurrence qui aujourd'hui est absolument impunie, donc complètement arrogante et qui s'en donne à cœur joie pour nous tailler des croupières, alors que ces gens-là sont mauvais en plus, hein, du point de vue de leur métier. C'est, voilà, c'est ma petite quenelle du soir, mais ils sont vraiment mauvais, ils font des séjours de merde. Faites attention à qui vous achetez quoi.
Quand vous pouvez nous rappeler quel est le cœur d'activité de votre entreprise ?
Oui, essentiellement, nous, on est ce qu'on appelle le tour opérateur, c'est-à-dire bon, une agence de voyage qui produit au moins en partie ses propres séjours. Donc on a notre patte, on a notre griffe, ça s'appelle VTR Voyage, Viterev. On est assez spécialisé dans ce qu'on appelle les vacances actives, c'est-à-dire avec une dominante sportive ou en tout cas des options sportives. Donc, alors, on est très spécialisé aussi sur le ski, hein, les séjours de ski, donc c'est la période. Et donc j'étais en train de dire, il y a beaucoup de nos concurrents, pas tous, il y en a qui font du très bon boulot, mais globalement, les plus gros, ceux qui sont les plus méchants, et en général c'est eux les plus visibles, hein, parce qu'ils font tout pour éliminer la concurrence, donc eux ils sont en première place, donc c'est à eux qu'on achète et ils font de la merde, je pèse mes mots. C'est-à-dire des prestations minables, un après-vente inexistant, et si jamais vous avez acheté un truc qui vous correspond pas et que vous voulez changer, vous êtes mal, quoi. Commencez tout de suite, hein. On est en novembre, ça vous laisse du temps d'ici le mois de février. Voilà, c'est vraiment sur ce marché du tourisme, il y a de tout et de n'importe quoi, mais il y a beaucoup de n'importe quoi. Et VTR Voyage essaye d'incarner une tradition de travail bien fait, avec conscience, avec amour, on va dire les choses. J'ai une équipe autour de moi de gens qui sont tous jeunes, ils ont de 25 à 30 ans, donc j'ai 5 CDI encore, on a réussi à sauver ça, j'en avais 10 il y a 2 ans. Hein. Bon, ben, j'ai réussi à sauver le noyau dur. Et puis derrière, on a quelques CDD, on a quelques stagiaires, mais des gens qui font un vrai stage, font pas le café, travaillent vraiment. Voilà, tout ça est intéressant. On fait un vrai travail assez passionné. Je pense qu'on produit des séjours qui sont sympas. Quand ils le sont pas et qu'il y a un raté, ben, on le répare. On communique avec les gens, on est attentif. On a un numéro qui est pas en 08 et je sais pas quoi. Voilà, on est ouvert le samedi, mais on peut pas être ouvert le dimanche parce que voilà, il y a un moment donné, c'est trop de coûts. Vous voyez, on reste une PME, donc une petite entreprise, mais qui travaille presque comme les grandes du point de vue de l'ergonomie du service. Et puis au niveau des produits eux-mêmes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous allez chez un boulanger industriel, allez acheter votre pain chez Carrefour, et chez un boulanger artisanal qui fait son truc correctement. C'est exactement pareil pour les séjours. Et on est halluciné que les gens ne comprennent pas ça et qu'ils aillent se faire enfler à acheter des trucs à 199,99 pour être dans des cages à lapins dégueulasses. On leur dit pas, par exemple, quand on les envoie en vacances en famille, que cette semaine-là va y avoir un événement étudiant avec 1500 personnes dans la résidence.
Le tourisme concentrationnaire.
Ouais, bah écoutez, ça, c'est la blagounette du soir, mais oui, on peut dire ça. Enfin, de toute façon, c'est vrai. Tout à l'heure, il y a eu notre président en a fait une bonne comme ça à propos de Trigano. Je ne vais pas la répéter ici parce que bon, on veut pas énerver les gens, mais oui, c'est vrai. On peut parler de. Alors sinon, concentrationnaire, disons industriel. Hein. D'ailleurs, on parle l'industrie du tourisme. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était antinomique. Comme terme. Mais c'est comme ça que les gens raisonnent. Et d'ailleurs, quand je vais sur des salons, on dirait le salon des pompes funèbres. Enfin, je veux pas dire du mal des pompes funèbres, hein, surtout pas, mais je veux dire, les mecs sont vraiment macabres, quoi. C'est que des cadres en mauvaise santé, d'ailleurs, et en costard-cravate, super tendus par les chiffres et les machins. On sent pas trop le rêve et l'aventure, la rencontre de l'autre, la découverte du monde. Non, tout ça, non. Du pognon, du fric, de l'argent, tout de suite et le plus possible. C'est tout ce qui compte, les amis.
Non, bah Eric, merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous et puis bonne continuation parce que je sais que c'est pas facile.
D'accord, merci. Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, tu es le secrétaire général d'Égalité et Réconciliation. L'Assemblée générale vient de se dérouler. Comment s'est-elle passée selon toi ?
Bah, d'après les retours que j'ai eus de tous les camarades qui sont présents ce soir là, à ce grand repas militant, les retours sont très très positifs, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a une motivation, j'ai pas envie de dire décuplée, mais très importante après l'événement. C'est un plaisir d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'on a réussi le travail et la journée. Il y a encore une journée demain, parce qu'il y a une journée de formation avec Marion Sigaud et Lucien Cerise. Ça veut dire qu'on a réussi le gros du boulot. J'ai l'impression que les camarades sont enchantés. Je sais pas si toi tu as ressenti la même chose en les interrogeant, mais bon, voilà, je suis assez content, quoi.
Bon, on voulait te remercier pour l'organisation.
Ah, pour l'organisation, c'est Jean-Marie, responsable Île-de-France.
On a vu Alain Soral à la fin dire que s'il devait refaire s'il avait le choix de refaire, il le referait, l'association et tout ce qu'il a vécu avec Égalité et Réconciliation. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, ces propos, Président ?
Bah oui, on est connu à Égalité et Réconciliation pour notre loyauté vis-à-vis d'Alain Soral, pour le soutien indéfectible qu'on lui marque. Ça fait forcément plaisir aussi d'avoir ce soutien indéfectible en retour, quoi. C'est évident, bien sûr. Grand plaisir.
Ben Julien, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous et ben, profitez bien de ce week-end avec les militants et j'espère que les auditeurs vont en profiter tout autant.
Merci. Lamota, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes le responsable de Contre-Culture Musique. Vous n'avez pas assisté à l'Assemblée Générale d'Égalité et Réconciliation, cependant vous êtes aujourd'hui au restaurant avec nous. Comment vous trouvez l'ambiance ?
Je la trouve exceptionnelle, je trouve que c'est très amical et très fraternel.
D'accord. Alors en tant que responsable de Contre-Culture Musique, est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce label ?
Alors pour l'instant, Contre-Culture Musique, ça démarre gentiment mais solidement. Pour l'instant, ce sont 4 disques dans des styles très différents qui vont du rock instrumental à la chanson française en passant par un peu de la musique de film. Et puis on a très bientôt à sortir, donc dans les jours qui arrivent, un nouvel album de piano de Stéphane Blake, un album parfaitement extraordinaire, un album un petit peu une compilation de morceaux au piano classique, voilà, interprété par Stéphane Blake, qui est, comme chacun pourra l'entendre et le voir sur le site, un pianiste de renommée internationale et un pianiste parfaitement extraordinaire. On est très très fiers de sortir ce disque.
D'accord. Et est-ce que le modèle économique de Contre-Culture Musique est un modèle économique vertueux ? Est-ce que vous vendez des disques ?
Alors, c'est un modèle... oui, c'est un modèle vertueux dans le sens où c'est un modèle qui, pour l'instant, Contre-Culture Musique n'est pas encore un label de production. Pour l'instant, ça se limite à de la distribution. Alors, distribution physique de CD avec Gilad Atzmon, ça a été la première étape. Et puis maintenant, on utilise un modèle assez souple qui est le téléchargement. On essaye, en revanche, de mettre à disposition des morceaux de bonne qualité. On fait attention à fournir des morceaux de bonne qualité. Et oui, c'est un modèle vertueux parce qu'on propose des disques en dessous de 10 euros et on essaye de faire en sorte que les disques soient vraiment de bonne qualité. On est très... à cheval sur la qualité et sur la ligne éditoriale musicale, on va dire. C'est vertueux.
Vous-même, vous êtes musicien. On a pu entendre certains de vos disques dans notre émission L'heure la plus sombre. Est-ce que, en tant que musicien, se rapprocher d'un label comme Contre-Culture Musique, qui est quand même, disons-le, assez sulfureux, est-ce que c'est pas risqué ?
C'est un peu risqué, c'est un peu sulfureux. Je ne sais pas si c'est sulfureux, je ne sais pas si c'est...
Du point de vue des médias.
Bien sûr, du point de vue des médias. Je pense que c'est une œuvre de salubrité publique. C'est quelque chose que plus personne ne fait. Il n'y a plus aucun label qui donne... soit qui donne sa chance ou qui permet de faire découvrir à un public, je dirais, curieux et tout à fait sincère... des artistes intéressants eux-mêmes et sincères. Je crois que ce qu'on fait, on fait ce que devraient faire des dizaines d'autres labels, mais qui ont raccroché les gants et qui ne le font plus. On fait quelque chose, voilà. Peut-être qu'on reprend le flambeau de ce qui s'est fait pendant des dizaines d'années, qui est simplement proposer de la musique sincère, authentique, peut-être parfois un petit peu loin des canons de la radio FM. Sulfureux, je ne sais pas, évidemment, comme c'est associé à ER, ça peut être un peu sulfureux, mais je pense que c'est un risque à prendre, et je le prends avec plaisir.
Vous avez beaucoup de demandes d'auteurs et de musiciens pour s'associer à vous ?
On reçoit des maquettes, des démos, des vidéos, on écoute tout, et on répond à tout le monde. Voilà, c'est déjà un credo, c'est quelque chose qui est, pour moi et pour toute l'équipe, qui est très important. On écoute tout, systématiquement, on répond à tous. Et bah, je profite du fait qu'on me tende le micro pour inviter une fois de plus les musiciens qui nous écoutent ou les gens qui connaissent des musiciens, qui connaissent des projets, pour les inviter à nous envoyer des démos, des projets, des maquettes, des albums faits, de chansons. Et quel que soit le style, on écoute tout et on essaye de faire ce qui doit être fait pour mettre en contact les artistes et le public.
D'accord. Xavier ?
Oui, la Mota, j'ai beaucoup apprécié l'écoute de vos morceaux et je voulais savoir un peu quelles étaient vos influences en termes de musique.
Il y a une influence qui est majeure et que je ne cache pas, je m'en réclame même, c'est l'influence d'Ennio Morricone. Je suis un passionné d'Ennio Morricone, je suis un passionné de musique de film en général, donc ça va aussi vers François de Roubaix ou Michel Legrand ou Francis Lai, d'autres compositeurs de musique de film. J'ai vraiment une tendresse particulière pour la musique des films des années 60-70, même jusqu'aux années 80. Et ce que Contre-Culture Musique m'a permis de proposer, c'était un disque compilation, un peu hommage à toute cette période que j'aime beaucoup. Après, j'écoute aussi bien Bach que Metallica ou des groupes beaucoup plus durs. Voilà.
Et vous considérez que c'est la continuation de la musique classique beaucoup plus que ce qu'on appelle la musique savante comme Boulez ou ce genre de choses?
C'est certain que... Je pense que la musique de film, surtout quand elle est bonne, la musique de film aujourd'hui est exactement, Xavier, la continuation de ce qu'était ce qu'on appelle la musique classique, une musique populaire qui s'adresse à tous avec des thèmes faciles à retenir, facile à chanter, à reprendre.
Beaucoup plus que la musique savante.
Alors, certainement plus que Xenakis, Boulez ou Gilbert Ami. Absolument. Je crois que cette musique savante, moi tu l'appelles savante, moi je l'appelle subventionnée.
Oui, on peut dire ça aussi.
Voilà, la musique subventionnée. Non, alors Contre-Culture n'a pas de subvention. Contre-Culture est un modèle vertueux, autonome, et voilà.
Donc tout ça une bonne nouvelle pour les jeunes compositeurs en herbe qui n'ont pas forcément envie de faire des choses inaudibles.
Absolument, on appelle j'appelle vraiment au nom de l'équipe de Contre-Culture Musique les compositeurs, les interprètes, les chanteurs à nous envoyer tout ce qu'ils ont, toutes leurs démos, en leur garantissant une réponse sincère, parce qu'on peut évidemment pas distribuer tout le monde. On est obligé quand même de proposer, c'est comme pour les livres. Hein.
Vous avez dû faire des déçus.
Il arrive qu'on fasse des déçus, mais on, lorsque le moment n'est pas arrivé, personnellement, je m'emploie à rester toujours très encourageant. J'essaye toujours, si un projet n'est pas arrivé à terme, n'a pas atteint la maturité suffisante, j'encourage toujours et j'essaye de donner des conseils dans la mesure de ce que je peux faire pour aider les gens qui nous envoient leurs démos, leurs maquettes, oui. Je pense que c'est le rôle d'un label.
La Mota, merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup à vous.
J'espère que nous aurons le plaisir de vous accueillir dans une émission spéciale dédiée à la musique.
On a passé une bonne partie de la soirée avec Alain à parler musique et j'espère qu'on le fera sur votre antenne, ce serait vraiment un très bon moment. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup. Hein.
Alors Stéphane Blé, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tu es musicien, c'est ça ?
Oui, jusqu'à preuve du contraire, oui.
Bientôt produit par Contre-Culture Musique.
Je crois que ça a déjà commencé.
Ah, ils sont déjà en vente ?
Le CD est sur le site depuis ce matin, enfin en téléchargement. Oui.
D'accord, très bien. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver ici ?
Mon parcours avant d'arriver ici, je suis pianiste-compositeur, je suis parti très tôt à New York, j'ai pas fait mes études, si tu veux, à Paris, au Conservatoire de Paris, etc. Finalement, heureusement, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis et je suis revenu après en France. Bon, j'ai donné des concerts non-stop pendant une quinzaine d'années et ensuite, comme j'avais vraiment la passion de la composition, j'ai voulu pouvoir m'y consacrer pleinement. Et j'ai pris, on va dire, 2 années sabbatiques pour composer. Et ensuite, j'ai alterné la composition et l'interprétation. Et j'ai enregistré une quarantaine de CD depuis et composé à peu près 300 œuvres. Et maintenant, c'est devenu assez naturel pour moi de faire les deux, si tu veux, de composer une sonate un jour, d'interpréter Liszt ou Rachmaninov le lendemain. Et voilà. Mais tout ça, ça se fait indépendamment du système... normal, j'ai été chez Philips pendant des années, bon c'est très bien, ça te fait connaître, etc. Mais tu vois très vite les limites de ce système-là, parce que tu es quand même plus ou moins esclave de leur desiderata, et c'est pas forcément génial pour un artiste pour se structurer, si tu veux. Donc ensuite j'ai enregistré pour des labels indépendants, Et puis voilà, puis j'aboutis chez Contre-Culture et c'est très bien parce que on a quand même tellement de points communs que c'était normal que ça se finisse comme ça.
Alors Stéphane, en écoutant tes interprétations de Liszt et de Chopin notamment, j'ai eu l'impression que tu étais un disciple de Glenn Gould. Est-ce que je me trompe ?
Bah écoute, déjà, bon, Glenn Gould jouait jamais ni Chopin ni Liszt, donc c'est pas. Mais il jouait plutôt Bach. Bon, je joue Bach aussi, mais disons c'est pas ma spécialité. Moi, je suis plutôt musique russe ou alors Liszt, Chopin, bien sûr. Enfin, beaucoup Rachmaninov, Scriabine, Moussorgsky, etc. Donc, bon, en tout cas, c'est très bien. Ça me saute pas aux yeux comme ça. Je suis plus proche de pianistes comme Horowitz ou Byron Janis ou Alfred Cortot. Fantastique pianiste français des années 30, qui à mon avis était le plus grand pianiste français du 20e siècle. Enfin, moi, je me sens plus proche de Cortot que de Gould, si tu veux, mais chacun ressent les choses à sa manière.
Qu'est-ce que tu penses, Stéphane, de l'état de la musique actuellement qu'on peut écouter à la radio la musique qu'on entend, qu'est-ce que ça t'inspire?
Ça m'inspire, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Enfin voilà, non, c'est une catastrophe. Enfin bon, c'est de la merde à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ça atteint le classique aussi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel degré de nullité qu'il n'y a plus que l'image qui compte, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de contenu nulle part. Et il ne faut pas croire que c'est valable uniquement dans la variétoche avec deux, trois connasses qu'on nous montre comme ça qui vont durer deux mois. Non, non, c'est aussi devenu comme ça dans le classique. Et on se rend compte que même, je veux dire, les jeunes pianistes qu'on nous sort aujourd'hui de 18 ans, bon, très souvent sont nuls, mais de temps en temps peuvent être bien. Mais même quand ils ou elles sont bien, on te les vend, pardon, mais comme des putes. C'est-à-dire, il faut que le mec ait l'air d'un petit androgyne, machin, sexy, ou que la nénette ait les nichons à l'air et soit couchée sur le sol. Bon, enfin, mais c'est ça. Ça envahit tout. Il n'y a plus que l'image, il n'y a plus rien, et c'est dramatique. Et ça s'est passé très vite. Hein. Bon, c'était pas le paradis avant, mais il y a un changement absolument énorme depuis 10 ans qui est assez catastrophique. Donc tout est basé sur l'image et ça devient de plus en plus terrible.
Alors est-ce que tu connais une mission qui existe au Venezuela qui s'appelle le Système ? El Sistema, t'en as entendu parler ?
Franchement non, mais c'est pas le truc du chef d'orchestre de Dudamel.
Exactement.
Ah oui, bien sûr, bah, Dudamel, je connais, il est très sympa d'ailleurs, mais ça c'est grâce à Chavez qui avait créé ça et qui allait chercher, qui a créé l'orchestre de Caracas d'ailleurs, je crois.
Il finançait pour les enfants pauvres des bidonvilles, des instruments de musique et des cours de musique entièrement gratuits pour tous ceux qui le voulaient, en fait. Musique gratuite.
Voilà, fantastique, mais rêve pas, ça risque pas d'arriver ici. En tout cas, moi qui ai une révolution, mais enfin, on s'y emploie, mais c'est pas de mal à veille. Mais non, c'est extraordinaire, c'est une expérience géniale et c'est devenu un des plus grands orchestres du monde, vraiment. Mais effectivement, à part Chavez, qui pouvait faire ça, personne. Enfin, malheureusement, ça s'est pas fait. En dehors de lui, personne l'a fait. Il allait chercher, effectivement, comme tu dis, des jeunes dans des bidonvilles. Alors, faut pas croire que c'était comme ça, allez, on prend tout le monde, on fait n'importe quoi. Non, évidemment, les mecs, il fallait qu'ils bossent, etc. Mais il a trouvé des gens absolument passionnés, et il les a élevés, il les a. Il a sorti de la violence et puis surtout, c'est-à-dire qu'il a géré leurs énergies de telle manière qu'ils prennent leur pied avec la musique et ils font des choses fantastiques. C'est un exemple génial, mais c'est un exemple unique, malheureusement.
Alors Stéphane, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des Asiatiques, notamment des Chinois, dans la musique classique ? Et on voit de plus en plus d'interprètes chinois. Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses de la formation musicale classique française ?
Alors pour la première question, je veux pas tomber dans la caricature du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les pianistes chinois jouent tous comme des mécaniques. C'est pas vrai. Il y a de tout, comme partout. Il y a une pianiste, on en parlait avec Alain l'autre jour, Yu Jiawang, que je lui ai montré. Alors justement, je parlais tout à l'heure de jeunes pianistes qui peuvent avoir du talent et qu'on vend vraiment d'une manière mais dégueulasse en les montrant avec des jupes ras la moule, couchées par terre, enfin des trucs, alors qu'elles ont vraiment un fond, mais on les vend comme des produits vraiment, bon, c'est assez terrible. Donc il y a Yu Jiawang qui est une très bonne pianiste, qui est très à la mode maintenant parce qu'elle est bien lancée, mais bon, combien de temps ça va durer? Vu la manière dont ils la vendent, on a déjà compris qu'ils vont s'en servir comme d'un citron, ils vont la presser, ils vont l'acheter. Bon, il y a d'autres pianistes chinois beaucoup moins bien, mais moi, je trouve que c'est très bien que la culture chinoise s'ouvre de plus en plus à la musique classique. Et contrairement à ce que disent certains, je ne considère pas du tout que les pianistes chinois soient forcément moins bons ou plus mécaniques que les autres. D'abord, je ne crois pas vraiment dans ces concepts-là. Donc, il y a des gens qui ont une âme et puis d'autres qui n'en ont pas.
Et la formation classique française, dont on dit souvent qu'elle a du retard ou qu'elle n'est pas au niveau ?
elle a pas de retard, et c'est de la merde, donc c'est très clair, voilà, voilà, c'est, voilà, ça s'arrête là. Alors, il faut voir le Conservatoire de Paris, bon ça personne n'ose le dire, mais au point où j'en suis, je dis ce que je pense, donc c'est vraiment de la merde.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est un milieu complètement sclérosé par des abrutis, par des gens qui tiennent uniquement à leur petit poche jusqu'à la retraite, sont vraiment des fonctionnaires au sens, pour le coup, péjoratif du terme. Et bon, alors, il peut y avoir une exception, etc., mais la manière dont tout ça est géré, de toute manière, la hiérarchie, la politique culturelle, enfin, rien que le mot, pardon, j'ai envie de rigoler, politique culturelle, voilà, la politique non culturelle de la France fait qu'il n'y a aucune évolution. Toute personne qui a un peu de talent, et il y en a quelques-uns, tous les enseignants ne sont pas nuls, c'est pas ce que je vais vous le dire, mais il y a quand même beaucoup, mais ceux qui ne le sont pas sont systématiquement écartés, et dès qu'ils veulent présenter une innovation, mais c'est valable pas seulement pour la musique, on le voit partout en France pour tout, bon, dès qu'ils veulent présenter une innovation, ils se font remettre à leur place, et donc il ne se passe rien, et le milieu est complètement sclérosé, et l'école française au sens littéral, Et complètement sclérosé aussi, voilà, il n'y a aucune évolution.
Et comment tu vois l'avenir de la musique classique en France ?
Bah, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. D'abord, il n'y a plus d'école française, il n'y a plus de comme j'ai dit, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui sont obligés de venir prendre des cours parce que pour leur papier, il faut qu'ils passent par le conservatoire. Il y a des profs qui, alors bons ou mauvais, mais qui essayent de rester là jusqu'à leur retraite. Enfin, on est dans la sclérose complète. Voilà.
Alors Stéphane Blé, merci beaucoup. Donc on va terminer cette émission en musique. Donc chers auditeurs, je vais proposer à Stéphane Blé lui-même de choisir un titre de son album. Stéphane, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Eh ben, on va dire la valse opus 64 numéro 2 de Chopin, qui est une valse magnifique, la 7e du cycle. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. En tout cas, c'est une valse qui me tient beaucoup à cœur.
Très bien, merci beaucoup Stéphane.
Merci.
Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec Xavier pour une nouvelle émission de L'heure la plus sombre. Et donc, nous écoutons
la valse opus 64 numéro 2 de Frédéric Chopin. Thank you.